Quelle joie, chers amis, d'être avec vous tous pour ces baptêmes et de vivre ensemble cette journée avec nos six baptisés. C'est vraiment une joie de vivre ça, d'entendre ces différentes histoires, ces différents récits de la grâce de Dieu de différentes manières. Mais aussi surprenant, n'est-ce pas, de voir des baptisés si différents dans leur parcours, dans leurs arrière-plans, mais aussi différents en termes d'âge, de situation de vie. Une grande diversité que l'on a aujourd'hui. Et dans un sens, c'est une bonne illustration de ce qu'est la foi chrétienne, n'est-ce pas ? La foi chrétienne n'est pas limitée à une catégorie de personnes uniquement, mais s'adresse à tous, concerne tout le monde, est ouverte à tous. Elle n'est pas limitée juste pour les adultes, juste pour les enfants, juste pour ceux qui ont atteint un certain niveau de vie, ceux qui ont atteint une certaine expérience de connaissance, mais elle s'adresse à tout le monde. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble dans notre texte qu'on vient de lire dans Matthieu 15, qui vient d'être lu. Vous dites peut-être pourquoi ce passage-là et pas un autre. Eh bien, on continue notre série de prédications dans le livre de Matthieu. C'est ce qu'on étudie ensemble chaque dimanche. On étudie les livres de la Bible l'un après l'autre. Et donc, c'était le passage d'aujourd'hui pour notre culte. Et ça tombe très bien pour ce culte de baptême, ce que l'on voit dans ces versets. On va voir que la foi chrétienne concerne tout le monde. On va voir que c'est pour tous. Et on va voir qu'avec Jésus, personne n'est laissé pour compte. Et vous avez sur le feuillet qui se trouve à l'intérieur de votre livret le plan de ce qu'on va voir ensemble à l'intérieur de ce passage. Et donc, je vous invite à le garder sous les yeux si ça vous aide à suivre. Trois choses que j'aimerais souligner à travers de ce récit de la vie de Jésus. Voir que pour tous, c'est le même accès à Dieu, pour tous le même sauveur et pour tous les mêmes bénédictions. Donc premièrement, pour tous le même accès à Dieu. À l'époque de Jésus, certains pensaient que l'accès à Dieu était limité uniquement à certaines personnes en particulier. Et il s'agit notamment des pharisiens, dont on a parlé la semaine passée, dans le début du chapitre 15, on a vu ça la semaine passée. Jésus a parlé avec eux juste avant notre récit. Et pour eux, le moyen d'être agréable à Dieu, le moyen d'accéder à Dieu, c'était de vivre une vie irréprochable, de respecter des règles strictes. Non seulement les règles de la loi de l'Ancien Testament que Dieu avait donné au peuple d'Israël, mais aussi plein d'autres règles qu'eux-mêmes avaient inventées, sur ce qu'on avait le droit de manger ou pas, sur comment on devait s'habiller, comment on devait se comporter, comment on devait vivre. Et cette manière de vivre, elle était limitée uniquement à ceux qui faisaient partie du bon peuple, ceux qui faisaient partie du peuple juif, de la bonne lignée. Donc selon les pharisiens, l'accès à Dieu n'était pas pour tous. Mais le récit qu'on a sous les yeux, il détruit complètement cette idée. Il nous montre que l'accès à Dieu n'est pas basé sur l'apparence, mais sur la foi, et qu'il est donc le même pour tous, peu importe qui on est. Il est question dans la première section de ce récit d'une femme qui est appelée cananéenne. C'est un mot qui fait référence à l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, écrite avant la venue de Jésus. Les cananéens, c'étaient les ennemis du peuple d'Israël, les ennemis du peuple que Dieu avait choisi. C'est eux qui habitaient le pays promis. Donc en la décrivant comme une cananéenne, Matthieu qui raconte cette histoire, qui écrit cette histoire, il veut bien souligner le fait que cette femme, elle n'est pas juive. Elle ne fait pas partie de la lignée choisie. À première vue, elle ne fait pas partie du peuple qui va hériter des bénédictions promises par Dieu. Mais encore plus que ça, c'est une cananéenne. C'est comme au foot, un supporter du Standard de Liège contre un supporter d'Anderlecht, et vice-versa. Ou du PSG contre l'OM, et vice-versa. C'est l'ennemi numéro un. C'est impensable. Donc cette femme n'avait rien qui nous permettrait de penser qu'elle aurait pu avoir accès au Dieu d'Israël. Et pourtant, dans notre histoire, Jésus montre que l'accès à Dieu, il est le même pour tous. Jésus exauce cette femme et il honore sa foi, malgré le fait qu'elle soit non-juive. C'est vrai qu'à première vue, ce que Jésus dit peut être surprenant à propos de cette femme. Au verset 24, le petit 24 sur votre feuillet où il y a le texte, Jésus répond à ses disciples, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il explique sa mission, et il explique que sa mission concerne les Juifs. Alors pourquoi est-ce qu'il devrait exaucer cette femme qui n'est pas juive ? C'est ce qu'il dit aussi à la femme au verset 26. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Sous-entendu ici, les enfants, ce sont ceux qui font partie du peuple de la promesse, les Juifs. Et les petits chiens, ce sont ceux qui sont en dehors de ce peuple, les non-juifs. Et cette réaction de Jésus, elle peut paraître surprenante, elle peut paraître sèche, elle peut paraître brutale, manquer de compassion envers cette pauvre femme désespérée. Mais ce n'est pas que Jésus manque de compassion ici. On verra plus loin dans notre passage que Jésus est justement rempli de compassion envers la foule. On verra qu'il veut guérir parce qu'il va faire de nombreux miracles envers des personnes qui ne sont pas juives. Donc ça nous aide à comprendre que dans ce dialogue entre Jésus et cette femme, il y a quelque chose de plus qui est en jeu. En fait, quand cette femme s'adresse à Jésus pour la première fois, elle s'adresse à lui comme étant le fils de David. C'est comme ça qu'elle l'appelle « Seigneur, fils de David ». Et ce terme-là, « fils de David », c'est aussi un terme qui fait référence à l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Le fils de David, c'était le Messie promis par Dieu, qui devait venir pour libérer son peuple. C'était le roi choisi par Dieu, qui devait enfin apporter le repos et la paix au peuple. Et ce peuple, c'était le peuple d'Israël. Le Messie devait être un fils de David, un descendant de David, qui était le roi d'Israël. Il devait être le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui étaient les pères du peuple d'Israël. Donc cette femme reconnaît à juste titre que Jésus est le Messie. Et pourtant, elle qui n'est pas juive, elle qui ne fait pas partie de ce peuple d'Israël, elle demande quand même à bénéficier des bénédictions qu'offre le Messie. Donc les réactions de Jésus vont dans ce sens de s'assurer si elle a bien compris ce qu'elle est en train de demander. Dans un sens de tester sa foi pour voir si elle croit réellement qu'elle a aussi droit d'être au bénéfice de l'œuvre du Messie. Et c'est ce qu'on voit avec l'image du verset 26, quand Jésus dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. » Ce ne serait pas convenable, lors d'un repas, de donner d'abord à manger aux chiens et puis ensuite de donner les restes aux enfants. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. D'abord, on donne à manger aux enfants de la maison et puis s'il y a des restes, il y a des os et des restes, on peut donner ça aux chiens. Il y a un ordre à respecter, d'abord les enfants et ensuite le chien. Et ce n'est pas pour dire que les bénédictions réservées aux juifs seraient plus grandes que celles réservées aux non-juifs, comme on va le voir par la suite, on est tous au même niveau, mais plutôt pour dire qu'il y a un ordre à respecter, y compris dans la mission de Jésus. Il a été envoyé premièrement aux juifs et ensuite aux non-juifs. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette femme reconnaît cela au verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle. » Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle ne demande pas à être traitée comme une juive. Elle ne demande pas à être traitée avec privilège ou avec exception. Non, avec humilité, elle reconnaît la bonté de Dieu dans le choix d'Israël en se révélant à ce peuple. Et pourtant, elle reconnaît que même pour elle, en tant que païenne, même pour elle, en tant que non-juive, une miette de la grâce de Dieu lui suffit. Une miette de la grâce de Dieu lui suffit. Elle reconnaît que la mission du Messie concerne aussi les païens et que s'ils ont même que les restes, ce sera largement suffisant. Il y a à manger pour tout le monde. Tout le monde peut en bénéficier. La grâce de Dieu est suffisamment grande pour que tous ceux qui viennent à lui puissent en bénéficier. Et donc cette femme fait preuve de foi, d'une foi humble, d'une foi confiante, d'une foi bien placée, dans la bonté et dans la générosité de Dieu manifestée en Jésus. Et Jésus reconnaît ça au verset 28 en disant « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est pas que cette femme a fait changer Jésus d'avis, qu'il voulait pas avoir compassion d'elle et puis que finalement il dit « Bon, ok. » Mais c'est que Jésus reconnaît qu'elle avait la foi bien placée, la bonne compréhension des choses. Et Jésus l'exauce. Et c'est ça la surprise que l'on a dans ce récit. Que non seulement Jésus exauce une cananéenne, mais en plus il le fait en terre non-juive. Alors que tout ce récit se passe, Jésus est en terre non-juive, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et en le faisant, il montre publiquement que sa mission concerne aussi les non-juifs. Que eux aussi sont inclus dans le plan de Dieu. Donc dans ce passage, Jésus n'est pas méchant ou discriminatoire, mais au contraire, il nous montre que les bénédictions liées à la venue de Jésus sont pour tous, peu importe notre apparence externe. Et la foi de cette femme contraste justement avec l'arrogance des pharisiens, dont il a été question dans le début du chapitre 15. Il pensait être juste. Il pensait mériter l'accès à Dieu. Et de l'extérieur, on aurait pu dire que oui, effectivement, c'est le cas. Ils sont plus proches de Dieu que d'autres. Et pourtant, leur cœur, à l'intérieur, était opposé à Jésus. Et en contraste, on a cette femme qui, de l'extérieur, n'avait rien qui aurait pu laisser penser qu'elle pouvait avoir accès à Dieu. Et pourtant, elle avait la seule chose qui compte, une foi humble, une foi confiante, une foi bien placée. Donc pour tous, c'est le même accès à Dieu. Pas basé sur l'apparence extérieure, pas basé sur l'observation de règles religieuses, pas basé sur la foi de nos parents, mais sur notre propre foi, sur notre propre compréhension de notre péché, de notre condamnation devant Dieu et de notre besoin de salut en Jésus. Et c'est pour ça que c'est pour tous, peu importe qui on est, peu importe d'où on vient. Il n'y a pas de distinction entre un bénévole de la Croix-Rouge et un prisonnier, entre un fils de pasteur et un fils de terroriste, entre celui qui est tout en haut de l'échelle sociale et celui qui est tout en bas, entre celui qui semble avoir réussi sa vie aux yeux du monde et celui qui semble l'avoir raté. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction, ce n'est pas ça qui compte. C'est l'attitude du cœur qui compte. C'est la foi humble, la foi confiante et la foi bien placée. Donc pour tous, le même accès à Dieu. Deuxièmement, dans ce texte, pour tous, le même sauveur. Dans la deuxième partie du récit, c'est ça qu'on voit. Pour tous, le même sauveur. Parce que ce que Jésus fait avec cette femme, ce n'est pas une exception. Ce n'est pas comme s'il avait cédé à la demande de cette femme alors qu'il n'avait vraiment pas envie. Non, en fait, on voit dans la suite du récit que Jésus fait beaucoup d'autres miracles pour des personnes non juives, pour montrer qu'il est venu pour tous. Verset 30, de grandes foules s'approchent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Jésus accueille tout le monde. Il ne fait pas de distinction de personne et il les guérit. Et ces miracles que Jésus fait, c'est la preuve qu'il est bel et bien le Messie. Comme on l'a dit, ce Messie, c'était le sauveur que Dieu avait promis d'envoyer pour son peuple. Un sauveur qui allait libérer son peuple, pas seulement de la misère et de l'oppression humaine, mais un sauveur qui allait libérer son peuple de l'esclavage du péché. Un sauveur qui allait apporter le pardon réel, le pardon entier, pour le mal dont chacun de nous, on est coupable devant Dieu. Un sauveur qui allait permettre au peuple de connaître enfin la joie profonde et la paix profonde grâce à une relation restaurée avec le Créateur. Et l'Ancien Testament donne des signes qui vont permettre de reconnaître qui est le Messie, qui vont permettre de dire « Ah, mais le Messie est bien là !» Un peu comme des poteaux indicateurs, des panneaux indicateurs qui vont pointer dans cette direction-là. Par exemple, je vous lis deux versets dans le livre d'Ésaïe, où il est parlé du jour où le Messie viendra. Il est dit que ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les sourds entendent, les aveugles voient. Un autre passage, « Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. » Des boiteux qui sautent, des muets qui crient de joie, des aveugles qui voient, des muets qui parlent. C'est bien ce qui se passe ici. Donc c'est la preuve que le Messie est là, enfin, que le roi est venu et que cette nouvelle ère que le Messie devait apporter peut commencer. Cette ère où on peut connaître le pardon des péchés, où on peut connaître la vraie liberté, où on peut connaître une relation réelle et entière avec le Dieu de l'univers. Mais là encore, ce qui est surprenant, c'est que tous ces signes s'accomplissent en terre non-juive, en dehors du territoire d'Israël. Jésus était là au verset 21, et il continue au verset 29 à longer le long de la mer de Galilée, il est toujours en territoire non-juif, et donc c'est bien la preuve que le Messie est envoyé aussi pour eux. Ça fait partie de la mission du Messie d'apporter cette liberté aux juifs et aux non-juifs, à tous ceux qui, comme cette femme, font preuve d'une foi humble, est bien placé. Pour tous, il s'agit du même sauveur. Et ça, chers amis, c'est la bonne nouvelle de la foi chrétienne. Elle s'adresse à tout le monde et Jésus accueille tous ceux qui se confient en lui. La foi chrétienne ne concerne pas seulement ceux qui ont eu une éducation religieuse, ou seulement ceux qui font partie d'une certaine culture, seulement ceux qui ont eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne, ou seulement ceux qui pourraient parler une certaine langue qui serait plus sacrée qu'une autre, ou seulement ceux qui sont passés par un certain rite, seulement ceux qui ont une vie suffisamment pieuse, seulement ceux qui mesurent plus de 1m80 ou qui courent assez vite. Non, la foi chrétienne concerne tout le monde. Elle s'adresse à chaque être humain sur cette terre. Dans un sens, le seul critère pour être concerné par la foi chrétienne, c'est d'être pécheur. Et ça, c'est un critère que chacun de nous dans cette salle, on remplit. On a tous désobéi à Dieu, notre Créateur. On a tous rejeté ce qu'il nous demandait. Aucun de nous n'a vécu parfaitement comme il aurait dû vivre. Et cette indifférence vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses bonnes lois nous met face à un jugement de sa part, face à la colère juste, la colère appropriée et éternelle du Dieu de l'univers, qui ne peut pas tolérer le mal, qui doit rendre justice, et c'est une bonne chose, mais qui fait que nous nous retrouvons coupables et condamnés, et en ayant désespérément besoin d'un sauveur. Mais la bonne nouvelle de la foi chrétienne, la bonne nouvelle de ce passage, c'est que Dieu a donné ce sauveur en la personne de Jésus. Un sauveur qui est mort sur la croix pour prendre la punition qu'on mérite, comme on a eu l'occasion de l'entendre dans les témoignages, pour mourir à notre place, pour nous donner sa vie. Et un sauveur qui est ressuscité, qui est revenu à la vie, pour nous donner par la foi en lui, la confiance en lui, la perfection de sa propre vie, le pardon des péchés, la vie éternelle. Et ce sauveur, il est le même pour tous. C'est le même moyen et le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu pour chaque être humain. C'est le seul chemin et c'est un chemin qui est gratuit et qui est offert à tous. Et si on pense au baptême auquel on va assister aujourd'hui, ce baptême, il n'est pas réservé seulement à ceux qui ont réussi le grand quiz de la foi chrétienne sans faire moins de 5 fautes, ou seulement ceux qui ont des années d'expérience chrétienne, ou seulement ceux qui ont fait 3 ans d'années d'études de 3 ans d'études de théologie. Non, le baptême est pour ceux qui croient, peu importe qui ils sont. Pour ceux qui ont, comme nos baptisés du jour, réalisé que Jésus est le sauveur dont leur âme a besoin et qui ont placé leur confiance en lui pour être sauvés. Donc pour tous, il s'agit du même sauveur. Et enfin, troisièmement, pour terminer, pour tous, les mêmes bénédictions dans la fin du récit. Pour tous, les mêmes bénédictions. Dans le dernier épisode de notre passage, Jésus est toujours en terre non-juive. Il a passé 3 jours avec une grande foule, plusieurs milliers de personnes, bien plus qu'on est ici, même si on avait des problèmes de chaises, encore bien plus de personnes. Et maintenant, il n'y a plus rien à manger. Que faire? Une foule affamée devant lui. Ben, on a déjà vu une situation similaire, plutôt dans l'évangile de Matthieu. Si on a lu les chapitres d'avant, on se souvient de ça. Si vous étiez là les dimanches d'avant, vous vous souvenez de ça. Les disciples avaient amené 5 pains et 2 poissons à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus avait fait? Il avait multiplié les pains pour donner à manger à toute la foule. Tout le monde avait eu assez à manger. Et c'est ce que Jésus va faire à nouveau. Il y a seulement 7 pains pour une foule de 4000 hommes, donc beaucoup plus si on compte les femmes et les enfants. Et Jésus fait asseoir les gens, il rend grâce et il distribue les pains petit à petit. Et le pain ne manque pas, jusqu'à ce que tout le monde ait suffisamment à manger et qu'il y ait même des restes, 7 corbeilles de restes. Donc Jésus multiplie les pains pour nourrir la foule. Comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, ce miracle que Jésus accomplit, c'est un indice de plus que Jésus est le Messie et qu'il pourvoit pour son peuple. J'aimerais lire une autre promesse du livre d'Ésaïe qui parle de cette époque où le Messie viendra et qui parle d'un banquet final et éternel que le Messie va préparer, une grande fête que le Messie va préparer pour son peuple. Voici ce qu'il est dit. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents pleins de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Il est question d'un festin merveilleux, d'une fête dans un monde où la mort ne sera plus, où la tristesse ne sera plus, où le mal ne sera plus. Un monde où on pourra bénéficier de la présence de Dieu lui-même, ce qu'on appelle parfois le paradis, la vie dans la présence de Dieu pour toujours. en multipliant les pains, en pourvoyant aux besoins de son peuple, Jésus montre que c'est lui qui est celui qui prépare ce festin final. Il donne un avant-goût, en quelque sorte, de ce banquet final. Mais alors, pourquoi multiplier les pains une deuxième fois, alors que Jésus l'a déjà fait un chapitre plus tôt? Pourquoi est-ce qu'il le refait à nouveau? On doit réaliser ce qui est différent ici. Jésus, ici, est toujours en terre non-juive. Et il accomplit le même miracle. La foule est aussi rassasiée. Il y a aussi des restes. Donc il montre, comme on le voit depuis le début de ce passage, qu'il n'est pas venu juste pour une catégorie de personnes, mais qu'il est venu pour tous. Il pourvoit pour son peuple, et ce peuple est aussi composé de non-juifs. En fait, ce peuple est composé de tous ceux qui ont la foi, qu'ils soient juifs ou non. Ce banquet est pour toutes ces personnes-là. C'est l'accomplissement de ce que Jésus a dit plus tôt dans l'évangile de Matthieu. Il avait dit, « Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, c'est-à-dire de partout, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Certains qui étaient invités au banquet ont refusé l'invitation. Ils ont rejeté le Messie, comme les pharisiens qui continuent de s'opposer à Jésus. Mais d'autres viendront, de toutes les nations de la terre, même des non-juifs, ceux qui ont plié les genoux devant Jésus, qui ont reconnu leur besoin de pardon et qui ont accepté sa bonne autorité sur leur vie. Ceux qui se sont détournés de leur vie mauvaise pour se tourner vers Jésus. Et pour ceux qui sont à ce banquet, pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, il n'y a pas de distinction. Pour tous, les bénédictions sont les mêmes. On fait partie du peuple de Dieu, de la famille de Dieu, et on est en route pour vivre dans ce monde parfait, sans peine, sans mort, sans péché, sans tristesse, avec la présence de Dieu lui-même. Personne ne sera laissé pour compte, personne ne sera abandonné en route parmi ceux qui ont fait preuve de foi. Il n'y a pas de distinction ou de privilège au sein de la foi chrétienne. On est tous au même niveau, on est tous sauvés par la même grâce. Comme la Bible dit ailleurs, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Qu'on soit homme ou femme, qu'on soit juif ou non-juif, qu'on soit chrétien depuis des années ou qu'on soit chrétien depuis quelques jours seulement, on a tous accès à la même grâce. On a tous le même sauveur. On a tous les mêmes bénédictions en Jésus. On a tous le même avenir qui nous attend. Il n'y a pas de niveau dans la vie chrétienne. Et donc, avec Jésus, personne n'est laissé pour compte. Et c'est ça la bonne nouvelle de la foi chrétienne depuis le début. Steve a mentionné qu'on est ce dimanche, le dimanche de Pentecôte. C'est ça, si on se souvient, la bonne nouvelle de la Pentecôte, que l'Esprit est donné, que l'Esprit permet que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations, à tous les peuples, entendu par tous. Parce que l'Évangile, le message au cœur de la foi chrétienne, est un message qui s'adresse à tous. Et c'est pour ça qu'il y a l'espoir pour chacun de nous ce matin. Peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, peu importe si c'est la première fois qu'on met les pieds dans ce bâtiment et qu'on se réunit avec une église évangélique ou si on le fait depuis des années, on a tous accès à ce même Sauveur. Par une foi qui est humble, une foi qui est confiante, une foi qui est bien placée. Donc j'aimerais vous terminer en vous encourageant à réfléchir à cela. Si vous avez été invité ici, si vous découvrez toutes ces choses-là, si ces choses sonnent en étant nouvelles dans votre esprit, de ne pas mettre ça de côté trop vite. Parce que ce n'est pas exclusif, la foi chrétienne, dans le sens où c'est réservé uniquement à certains, uniquement aux plus religieux. Non, ça s'adresse à tous. Ça concerne tout le monde. Avec Jésus, personne n'est laissé pour compte. Tout le monde est appelé à réfléchir sur la réalité de son propre péché et sur la réalité de la grâce qui est offerte gratuitement par la vie, par la mort et par la résurrection de Jésus. Je vais terminer en priant et on va chanter ensuite pour terminer. Oui, notre Dieu, on te remercie parce qu'avec Jésus, personne n'est laissé pour compte. On te remercie pour cette bonne nouvelle qui ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Merci pour le privilège que l'on a de savoir que l'on a été sauvé, pas par nos mérites, pas par nos efforts, mais par ton don gratuit, bienveillant, immérité, dans la mort de Jésus à notre place. Aide-nous, alors que l'on termine cette rencontre et que l'on chante et que l'on célèbre ces baptêmes, à nous réjouir de ces vies transformées par ta grâce, de ta bonté, de ta générosité et de ton amour manifesté en Jésus à la croix. Et c'est en son nom qu'on prie cela. Amen.